Strip Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée et aux fanzines. Un dimanche par mois sur Radio Campus. Ce soir, pour cette première émission de l'année, nous avons le plaisir de recevoir Simon Lahure Camille Bertrand du collectif des Hiboux pour nous parler du festival Spin-Off. En chronique, nous parlerons du nouveau président de Yann Rambeau, publié en 2019 par les éditions Delcourt, Nagasaki de Agnès Ostache, paru en août 2019 aux éditions Le Lézard Noir, et Toujours tout foutre en l'air de moi, Romanova, publié en septembre 2019 par les éditions Revival.
Alors, on commence avec l'interview. Donc, ce soir, nous avons le plaisir donc, de vous avoir parmi nous, Simon et Camille. Merci d'être là.
Merci.
Alors, vous représentez le collectif Spin-Off. Spin-Off est un rendez-vous important dans le monde de la micro-édition et de l'auto-édition. Il a lieu chaque année depuis 2016, si je ne me trompe pas, en parallèle du Festival international de la BD d'Angoulême. Cette année, il aura donc lieu du 30 janvier au 2 février 2020. En 2007, vous vous définissez ainsi, nous sommes un off du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, très festif et chantant, valorisant autant la création indépendante dans les arts visuels que dans la musique. Nous proposons sur les longues des 4 jours des rencontres et des performances uniques dans la veine de nos prédécesseurs du FOF et nous associons également avec des producteurs locaux. Cette définition est toujours actuelle pour vous ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pendant ces 4 ans?
C'est toujours
la même recette.
Oui, c'est ça, c'est le même principe à chaque fois où en journée, il y a plein de collectifs qui sont là avec des tables, donc qui vendent comme n'importe quel festival de micro-édition.
Dans un petit salon, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le soir, ça se transforme en des événements musicaux, quoi, où on accueille des artistes live ou des DJ, voire même des gens qui font des spectacles. On a eu des comédies musicales.
Oui, une fois, on a eu une comédie musicale.
Du coup, voilà. Mais sur les deux plans, l'idée, c'est de valoriser des gens qui pourraient pas, qui ont du mal à se diffuser autrement que par des trucs indépendants comme ça, quoi.
Et justement, comment s'est créé le collectif Hibou? C'était dans cette idée immédiatement de diffuser des gens?
À la base, c'est un collectif qui vient du Pays Basque. Mmh. Okay. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a deux personnes qui se connaissent depuis très longtemps au Pays Basque. Et en gros, ils avaient monté ça ensemble avec leur bande de potes. Et c'était plus à la base un collectif où ils faisaient des fêtes. C'était musical à la base. Ils faisaient des événements, des soirées, quoi, en gros, dans le Pays Basque.
Et au moment où on a créé le spin-off, en fait, il y avait besoin d'avoir une structure associative et tout. Et comme eux, qui étaient vraiment centraux dans l'initiative de créer le spin-off, avait déjà une asso comme ça, on a continué à utiliser le statut de cette association pour organiser le spin-off. Après, les gens qui se sont fédérés autour du spin-off, c'est plus des gens qui se sont rencontrés au cours de leur étude de dessin, quoi. Donc une partie à Paris, en DMA illustration à Renoir, et l'autre à Lézy, d'Angoulême.
À Angoulême,
donc les Beaux-Arts d'Angoulême, qui ont pour particularité de faire un peu de BD.
Voilà. Est-ce qu'il existe donc vous avez utilisé cette association un peu comme un conteneur quand vous avez créé Spin-Off, mais si je ne me trompe pas, vous parlez aussi à un certain moment d'un esprit hibou. C'est quoi cet esprit hibou?
Est-ce que c'est un totem?
Un esprit hibou? Qui c'est qui a dit ça?
Je suis allée chercher dans les archives de votre page Facebook, et à un certain moment, vous parlez d'un esprit hibou. Au moins, les collectifs.
On a tout passé au peigne fin. Hein.
Ah ouais,
c'est
quoi l'esprit
hibou? Je sais pas, l'esprit hibou, c'est.
En tout cas, nous, Camille et moi, on est. On ne fait pas partie de la branche qui vient du collectif des hiboux, on fait plutôt partie de la branche qui vient de.
Juste du spin-off. Du spin-off. De l'événement spin-off.
Donc on aurait plus de mal à parler du collectif des hiboux de manière générale. Je suis déjà allé à des fêtes du collectif des hiboux. C'est vrai que c'était à peu près le même esprit, à savoir organiser des fêtes par soi-même. En l'occurrence, là, c'était dans la forêt au Pays Basque. Tout faire soi-même. inviter des artistes, essayer de les payer un petit peu, enfin en tout cas générer de l'argent qu'on met en commun et puis qu'on réinvestit pour les fois d'après, quoi. Un truc d'entraide entre artistes. Ça doit sûrement être ça.
Après, peut-être l'esprit hibou, c'est la débrouille ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Je sais pas trop. Là,
l'oiseau de nuit dans les forêts, là.
Ouais. je pense qu'ils ont, quand ils les ont appelés, pardon, les hiboux, c'était peut-être justement du fait qu'ils faisaient des fêtes comme ça, je pense. Ouais.
Il y avait aussi, il y a quand même cette idée d'être pluridisciplinaire, quoi, de faire de la musique et des arts.
Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait déjà cet aspect-là dans les fêtes. Il y avait par exemple, du dessin en live en même temps que les concerts et ce genre de choses, quoi. Enfin, il y a une dimension un peu multidiscipline où, en gros, on essaye de pas de faire de différence entre les différents champs de création, quoi.
Et puis des fois, les gens qui sont invités au spin-off en tant que exposants, ils font aussi de la musique. Du coup, des fois, ils passent aussi en concert chez nous. On se dit, vous savez faire plusieurs trucs, allez-y.
Et justement, comment, parce que vous êtes plutôt la branche spin-off, comment vous avez créé le spin-off finalement? Comment c'est venu cette idée?
C'était à Angoulême. Le FOF, c'était fini. Et c'est Mariem qui nous a rassemblés, en fait, qui nous a dit, c'est dommage qu'il n'y ait rien, parce que le FOF, c'était hyper...
En fait, il y a une longue tradition à Angoulême de off organisé en marge du grand festival, du grand salon de BD qu'on connaît, qui est organisé par les étudiants... depuis assez longtemps, avant le FOF même, il y avait d'autres choses. Enfin, moi, je m'en rappelle. Enfin, j'étais trop petit, je pense. Mais en tout cas, il y a toujours eu un peu des initiatives comme ça lancées par les étudiants pour accueillir la micro-édition, accueillir les plus indépendants des indépendants. Et en fait, on remarque que généralement, c'est des gens qui sont étudiants aux Beaux-Arts d'Angoulême qui font ça. Et puis, petit à petit, ils finissent leurs études, ils finissent par partir d'Angoulême. Donc, ça devient de plus en plus compliqué à organiser un festival où, en fait, on doit accueillir des artistes qui viennent parfois de l'étranger, des musiciens, les loger quand on n'est plus sur place. Donc, vient un moment où ceux qui ont organisé le off cèdent la place aux étudiants actuels, quoi. Et voilà, il y a un genre de cycle comme ça où le relais se passe assez naturellement. Et nous, enfin, c'est ce qui s'est passé. On était exposant au FOF avant, ou enfin en tout cas on le fréquentait, et puis on a appris qu'il allait s'arrêter. Et en fait on ne peut pas supporter qu'il n'y ait pas d'opportunités comme ça, parce qu'en fait, c'est une tribune pour tous les gens comme nous.
Ouais, le festival de la BD sans off, c'est...
Qui ont une vision de l'édition, à visée commerciale, ou qui n'ont pas forcément envie de s'exprimer en rentrant dans le carcan des grands éditeurs et tout. Donc voilà, il faut absolument qu'il y ait toujours... cette option-là qui existe pour nous autres.
Ouais, puis même pour les gens qui viennent voir, en fait.
Oui,
je trouve que c'est public, intéressant qu'ils découvrent aussi un autre aspect de la bande dessinée qui est autre que les grandes maisons d'édition.
Et donc, comme vous avez dit, vous faisiez partie des exposants pendant les FOF. Donc, quel était, j'ai lu que donc, les FOF, ils vous ont quand même accompagné de la première édition. Quels sont vos rapports avec les FOF? Est-ce qu'il y a une partie de l'organisation du FOF qui a rejoint Spin-Off ou pas? Quel était est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre l'esprit des Spin-Off et les FOF? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations avec les FOF, avec vos prédécesseurs?
Alors, il n'y a aucun membre du FOF qui a continué dans le spin-off, parce que eux, ils étaient arrivés un peu au bout de leur énergie, quoi. Ils étaient fatigués à la fin, parce que c'est quand même assez prenant.
Ils ont fait ça pendant 7 ans.
Ouais. Donc, ouais. Et puis voilà, à la fin, ils étaient tous plus sur place et ça leur pesait. La dernière édition, c'était assez dur pour eux. Donc, après, eux, ils enfin en tout cas il y a des membres du FOF qui continuent à venir au spin-off en tant qu'exposants, quoi. Enfin, c'est presque le même c'est la même chose, c'est juste que bah on se passe le relais, mais en tout cas l'idée c'est la même, c'est bah d'avoir un endroit où montrer cette production là qui n'a pas beaucoup de lieux pour rencontrer un public aussi grand public en l'occurrence, et voilà. Et après, est-ce que l'esprit a changé? Bah, après oui, enfin la direction artistique elle a un peu évolué, mais c'est des goûts personnels.
On n'est pas les mêmes personnes,
quoi.
Donc forcément on a
la prog musicale par exemple elle suit un peu en fonction des goûts de ceux qui sont aux manettes,
mais voilà,
c'est la même idée,
principe,
ouais.
Quoi, c'est la même recette, c'est pas, y a pas de, c'est juste bah on est des individus différents, donc là, c'est pas la même, mais sinon c'est
foncièrement pareil. On voudrait aussi savoir, c'est quoi vos rapports avec les festivals officiels? J'ai vu, avant, il y avait toujours une page sur Spin-Off, sur les sites du festival. Et là, j'ai vu que cette page n'existe plus, mais vous avez une interview. Donc, il y a une interview des Meriem sur, faite par les festivals officiels. Donc, quelles sont vos relations?
Oula. Langue de bois.
Non, mais bah... Quelle est notre relation in? Bah, écoutez,
S'il n'y avait pas des in, il n'y aurait pas de off.
Voilà, déjà, en fait, c'est sûr qu'on profite aussi qu'il y ait autant de monde à... Enfin, ce festival aussi, enfin, le spin-off marche aussi parce qu'à Angoulême, à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient pour la bande dessinée, pour voir des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que nous, ça nous facilite. Enfin, il y a plein de gens qui viennent, du coup. Si on avait fait ça à Angoulême un jour où c'est pas le festival, jour de pluie, oui.
Bah on est comme un petit champignon qui vit au pied d'un arbre.
Oui, voilà, c'est ça, quoi.
Ouais, en symbiose.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais
c'est...
bon, un peu dis. Enfin.
C'est pas le.
Pas réciproque, quoi. Mais je pense que le festival officiel de bande dessinée, il se félicite aussi qu'il doit y avoir. Enfin, que ça. Crée aussi des choses comme ça, bah, que les petits jeunes fassent, en profitent et voilà, quoi. Je pense que c'est vu d'un bon œil, en tout cas c'est soutenu par la ville d'Angoulême, etc. Donc c'est pas ça se fait en bonne intelligence là-dedans, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, d'animosité, c'est juste que c'est pas la même vision de,
oui, voilà, c'est ça,
de l'édition, mais après il n'y a pas de
ça cohabite
de rivalité,
quoi.
Ouais, voilà.
Et justement, parce que je vois bien que vous dites que c'est en complémentarité, mais donc ça ressemble à quoi les productions que vous montrez un peu à la marge du coup d'un festival officiel, j'imagine peut-être avec une idée d'originalité ou de, je sais pas, des propos plus, ou alors un format un peu original ou des propos un peu voilà différents, indépendants.
Quelle est la différence entre les productions qu'on trouve au spin-off et les productions qu'on trouve dans le in?
Non, juste ce qu'il y a au spin-off. Qu'est-ce que vous mettez en valeur des fanzines, par exemple? Vous pouvez raconter à quoi ça ressemble, juste la salle et les choses que vous montrez.
Par rapport aux productions des gens, c'est assez large. Donc il y a des gens qui vont vraiment faire de la BD narrative, des gens ce sera plus des romans graphiques, des fanzines avec que des images, des prints, des gens qui vendent des t-shirts. Tout type de la riso, de la sérigraphie, c'est assez libre en vrai.
Ouais, je pense que le dénominateur commun, ce serait que c'est des choses qui sont produites en petit tirage, quoi.
Ouais, c'est...
La grosse majorité, c'est des choses qui sont manufacturées par les artistes eux-mêmes ou par les collectifs. Voilà, c'est des choses qui existent souvent à moins de 100 exemplaires.
Thank you.
Ouais. L'artiste Ropopo Rose avec le morceau Horses. Nous sommes toujours en compagnie de Simon Lahure et de Camille Bertrand du collectif des Hiboux pour nous parler du festival Spin-Off.
Alors, pour revenir à notre discussion précédente, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les différents niveaux de BD indépendantes finalement que vous présentez, lesquels sont dans le in, dans le off, voilà, comment ça se passe?
Déjà, il y a des étudiants encore qui sont au spin-off. Ça aussi, c'est un truc très qui fait partie aussi, enfin, qu'on avait envie. Enfin, quand on monte un festival off, c'est aussi pour ça. Donc, il y a des gens qui ont des toutes petites maisons d'édition ou des petits collectifs. Et il y a des gens du coup qui sont encore en études, mais qui ont monté des collectifs à l'école en rencontrant des gens. Et du coup, après, ça, il y a des gens qui évoluent. Il y a des plus grosses. On a eu Matière, par exemple. Je pense que c'est le plus gros.
Éditeur,
le plus gros éditeur qu'on ait eu quoi. Les différents niveaux
Je pense qu'il faut pas voir une frontière nette entre ce qu'on peut considérer d'indépendant et ce qu'on peut considérer de commercial. D'ailleurs au Festival d'Angoulême il y a plusieurs il y a une distinction déjà qui est faite entre les méga éditeurs au Festival d'Angoulême, en fait, ça marche par bulle. Donc il y a la bulle avec les gros éditeurs où on peut retrouver Dargaud, Delcourt, enfin tout ce qu'on veut. Ensuite il y a la bulle des indépendants qui s'appelle le Nouveau Monde. Et donc là, pareil, on va avoir des plus petits éditeurs l'association Misma. Donc c'est des éditeurs qui passent déjà pour indépendants au sein du monde de l'édition, quoi. Et donc, en fait, dans ce nouveau monde, qui est en fait la bulle la plus fournie du Festival d'Angoulême, il y a tout un dégradé de taille entre les différents éditeurs qui peuvent exister. Et tout au fond du nouveau monde, il y a certains vraiment très indépendants qui aussi, entre le off et le in, donc parfois ils sont présents dans le sein du in, au fond du nouveau monde, comme des espèces de petites découvertes qu'il faut aller chercher.
Aller chercher, ouais.
Mais parfois ils sont pas satisfaits d'être tout à la fin du in et ils préfèrent être tout en haut du off. Et donc il y a une porosité comme ça entre les deux entités, quoi. Donc faut imaginer ça un peu comme une continuité où il y a des gens qui parfois arrivent mieux à survivre en payant un stand plus cher au in mais en rencontrant un autre public, et parfois c'est une question à chaque fois de d'économie. Malgré tout, il faut réussir à trouver le compromis qui permet le plus de présenter son travail et puis de rentabiliser le déplacement à Angoulême, quoi. Voilà.
Et tout à l'heure, vous parliez des formats, des fanzines, un peu de créativité formelle. Est-ce qu'on peut dire que le off est un peu plus graphique, en quelque sorte? Il y a le concept d'auto-édition, c'est aussi peut-être plus de la sérigraphie, des choses comme ça
On va dire que, en fait, le festival d'Angoulême, c'est un festival de BD. Donc, ce qu'on va trouver au IN, ça va être forcément, enfin, quasiment majoritairement de la narration. Ça va être des choses qui vont raconter par le dessin, tandis que en fait au spin-off on a
un truc plus large.
Je pense que le dénominateur commun c'est le dessin, et à partir de là il peut y avoir des productions complètement qui racontent rien. C'est de la poésie esthétique par le dessin, par l'image. Des fois c'est je sais pas comment dire, de l'exercice de style de fabrication de livres, de reliures, de d'impression, tout ça. Donc c'est de l'expérimentation autour de l'idée d'édition.
Que les gens ils explorent autour de
Peut-être aussi un des critères c'est l'idée de c'est des trucs multiples. Enfin c'est pas des artistes qui viennent avec des pièces uniques, c'est des choses qui sont reproductibles et reproduites certes en série limitée, mais tout de même c'est pensé pour c'est des exemplaires qu'on vend, quoi. Mais après, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des cassettes, ça peut être des posters. Enfin, voilà.
Et j'ai une question par rapport au processus de sélection. Donc, chaque année, vous publiez sur Facebook un appel à candidature. Comment vous sélectionnez les artistes? Comment ça fonctionne?
Ça, déjà, on sélectionne une team qui va être... en général, c'est à peu près 3 personnes.
Oui, il y a un comité de sélection qui est formé à l'intérieur du collectif.
Gros, donc, ils reçoivent toutes les demandes. Et du coup, on fait en fonction aussi du local qu'on a à l'année. Donc, on voit la place qu'on
d'accueil.
A, le choix. On se dit, on a telle place, donc on peut prendre tant de gens. Et après, ça se fait... on regarde ce que les gens nous proposent, ce qu'ils nous envoient. Donc, ils nous envoient leur site, ils nous envoient des fois des maquettes. Et on voit les choses qu'on se dit, ça a sa place, parce qu'il y a des gens qui ont des travails très foisonnants, plein de choses à montrer. Après, ça se fait aussi un peu par rapport à nos goûts.
C'est très dur d'imaginer des critères objectifs sélection.
En vrai, c'est selon...
C'est vraiment... Après, on veille tout de même à pas se laisser uniquement guider par ce qu'on... par exemple, ça arrive que le comité de sélection décide de prendre des trucs qui n'aiment pas forcément en termes de goût esthétique, mais pour une question de diversité et même en termes de taille aussi. Je crois qu'on veille assez à ce que en tout cas au spin-off, il y a des nouveaux, quoi. On remplisse pas le truc avec toutes les têtes d'affiche qui demandent, mais qu'il y a aussi de la place pour des gens, c'est leur premier salon de micro-édition, c'est leur premier festival, et c'est super intéressant que ils viennent, qu'ils rencontrent les plus gros, que tout ce petit monde là qui est très curieux de ce que font les uns les autres s'oxygène et accueille du sang neuf, quoi. Et c'est vrai que quand on fait des salons de micro-édition, parce que il y a le spin-off, mais il y en a un peu partout en France et en Europe, et c'est un réseau en fait de gens qui se connaissent de ville en ville et tout, on se rend compte que il y a un peu tout, enfin il y a des têtes qu'on voit un peu partout, quoi. Il y a des gens qui
font ça. Est-ce que vous veillez à éviter ça? Par exemple, le fait de revoir effectivement les mêmes têtes dans tous les festivals, dans tous les petits festivals indépendants, ou pas?
En tout cas, on censure personne, on se dit pas « Ah, lui, on le voit trop ». Il y a des gens, ils font des choses d'une très grande qualité, c'est manifeste. On va pas leur interdire de venir parce qu'ils sont déjà venus. Et puis, de toute façon, en fait, ils vivent de ça. Ils ont besoin des salons pour exister. Mais on va quand même veiller à ce qu'il y ait de la place pour les tout-petits ou les gens qui sont encore à l'école, comme disait Camille, et qui viennent de...
Il faut que ce soit très éclectique,
premier,
en fait.
Fanzine, et c'est important qu'ils rentrent dans ce cercle vertueux de gens qui se soutiennent, qui se commentent, qui veillent à la production de micro-édition. Et puis voilà,
vous avez
quoi.
Un peu une vocation de tremplin, en fin de compte, avec ces jeunes.
Un petit
jeunes.
Peu, ouais. Mais c'est presque plus un tremplin... pour la communauté, vers la communauté, qu'un tremplin vers un public, quoi, parce que de toute façon, le public qui est à Angoulême, c'est du très grand public, et lui, il va pas nécessairement... Enfin, il va se rappeler qu'il y a eu... Enfin, ça va le sensibiliser à l'idée qu'il peut y avoir une autre production, mais il va peut-être pas forcément retenir tous les noms de tous les petits... gens qui font des fanzines, quoi. Mais c'est plus un tremplin de réseau, de rencontrer les autres acteurs de ce petit milieu de micro-édition qui est très... en tout cas, qui a des valeurs vachement d'entraide et de... et de solidarité. Et ça, c'est, ouais, c'est vachement important, quoi.
Juste une question pour se rendre compte, notamment pour les gens qui demandent à venir au spin-off en tant qu'exposant. Vous avez combien d'exposants et en gros, combien de candidatures?
Bah là, on en a 84 cette année.
Ouais.
Ah, c'est énorme.
C'est pas mal, ouais. On a
franchement,
un grand local là depuis.
On dit pas beaucoup de noms.
On dit, ouais, boy.
Je pense qu'il y a combien? Il y a peut-être 120.
Ouais, 120, 130.
Donc c'est quand même bien faisable, bien facile pour.
Ah ouais, ouais. Il suffit que ce soit un temps soit un peu sérieux et. Et voilà. Enfin, si on sent. Vraiment le que c'est pas fait à l'arrache et machin et que enfin ouais je pense on va avoir tendance à donner sa chance à quiconque
ouais c'est aussi le but du
c'est de faire ça connaître démocratique si on peut dire
Et regardons les noms des exposants de cette année, par exemple, nous avons Compote des potes ou Décadence. Est-ce que vous pensez que dans ces processus de sélection, les noms ont son importance ou pas? L'originalité du nom? Parce que je trouve ça très, très joli.
Est-ce que ça nous influe dans notre choix s'ils ont un nom un peu cool?
Est-ce qu'il faut donner?
Je sais pas. Bah, forcément, c'est comme une affiche ou une couverture. C'est... Ouais. Mais enfin, en vrai, non, mais.
Ça devrait pas.
Oui.
Bah, après, nous, on reçoit des dossiers où le nom il vient avec une imagerie immédiatement.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un package. Mais effectivement, je pense que. En tout cas, l'humour. L'autodérision a vachement sa place là-dedans. C'est tout le monde est au courant que personne, enfin que c'est pas un truc de pro, que c'est un métier, mais c'est pas un emploi. Enfin les gens vivent très mal de ça et voilà donc personne se prend au sérieux. Au contraire,
autant se faire plaisir quoi.
Ouais.
Et justement, vous nous préparez quoi pour l'édition de cette année à Angoulême?
Parce que là, actuellement, on est en train d'enregistrer, mais quand nos auditeurs ils vont écouter, vous serez un plan festival, en même plan à la fin du festival, les derniers jours du festival. Donc, vous êtes en train de préparer quoi?
Bah là, du coup, on est en train de préparer, il va y avoir une expo, comme tous les ans, à part la première année. La première année, on n'avait pas eu d'expo. Mais puis là, il va falloir faire de la construction. Parce qu'on fabrique, on essaie de fabriquer les modules dont on a besoin. Par exemple, on fabriquait les bars en palette, fabriquer un module d'exposition pour collectifs qui vont exposer. Donc, ce sera Novo Doba et Colorama. Ouais, voilà. Donc là, on rentre dans le jus. On va avoir les clés bientôt et il va falloir installer les tables. C'est tout ça, quoi. La mise en place.
Ouais. Et puis, on peut faire un peu de scénographie et ça. On est en train de boucler la programmation musicale aussi, qui n'est pas encore totalement finie. Il y a eu des petits contretemps, mais elle va bientôt être publiée. Mais en tout cas, on peut garantir qu'il y aura des, comme tous les ans, des fêtes.
Ce sera festif.
Assez.
Plutôt le soir, j'imagine.
Ouais, oui, le soir. Ouais. En fait, à la fin du salon de micro-édition, on ferme et là, toute l'équipe. Transvase vers le lieu de nuit. Bon, cette année, le lieu de jour et de nuit est le même, parce qu'il est très grand, apparemment. Je ne l'ai pas vu encore. Mais, toujours est-il que ça, c'est vraiment un truc que bah, Angoulême, ça a beau être un gros festival, l'équivalent du festival de Cannes en BD, quoi, on pourrait dire, mais il n'y a pas les énormes fêtes. Enfin. Ça manque un peu de vie nocturne, quoi. Et on sait très bien que les auteurs de BD, c'est des grands buveurs.
c'est gros... notoriété publique.
Voilà. Et en fait.
Il y a des fêtes annexes du IN, en vrai, qui ne sont pas organisées par le IN.
Ouais, voilà.
Mais qui sont juste aussi des fêtes, qui ne font pas forcément des choses dans la journée.
C'est des éditeurs qui peuvent organiser une soirée ou des choses comme ça. Mais toujours est-il que les fêtes du off, ça reste une valeur sûre. Où on voit. C'est ça qui est assez marrant, c'est que en fait le monde de la BD, c'est un monde où il y a des stars, mais c'est pas du tout des vedettes, quoi. C'est des gens qui sont pas reconnaissables dans la rue. Et en fait, bah, c'est des gens qui sont très simples. Et bah, les fêtes du off, c'est des moments où vont se croiser bah, les petits étudiants qui sont encore aux Beaux-Arts et puis des grands noms de la BD qui sont complètement bourrés et torse nu.
Voilà. Ah, il y a des idées en particulier là.
Ouais, je ne citerai pas de...
D'accord.
Et en termes de musique de groupe, pouvez-vous nous donner un style, un groupe qui va arriver ou...
Je pense qu'on ne peut pas donner un de nom style, encore dans la mesure où la prog n'est pas totalement bouclée. Après, style, c'est beaucoup de musique électronique tout de même. Particulièrement cette année, les années précédentes, il y avait une espèce de... Enfin, en veille à ce qu'il y ait un équilibre live... DJ. Cette année, on a un peu des contretemps techniques, donc on pourra avoir moins de musiciens de groupe, par exemple. Mais il y aura quand même des lives électroniques de gens qui font de la musique en live avec des machines ou avec des ordinateurs, quoi. Mais dans tous les cas, je pense que le mot d'ordre, ça va être dansant.
Oui.
Toujours festif.
Ouais.
Et au niveau pratique, donc de l'organisation, comment faites-vous au niveau financier ? Est-ce que vous avez tout à l'heure dit que vous avez le soutien de la ville d'Angoulême, donc ils vous donnent une salle. Comment vous faites ? Comment vous organisez ? Bah, il y a des bénévoles, je sais.
C'est juste cette année que, oui. En fait, c'est Magélis, c'est une structure à Angoulême justement qui aide la jeune création, les choses comme ça. Et du coup, cette année, les années d'avant, on
était totalement
nous-mêmes,
indépendants.
On trouvait des gens, parce qu'à Angoulême, il y a plein de locaux, de bâtiments qui sont vides.
Vide.
Et du coup, sauf que malgré ça, il y a plein de gens qui ne veulent pas nous louer pour deux semaines, parce qu'ils veulent louer plus, ou parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, ils vont faire un festival, ils vont ravager notre... » Il y a plein de choses comme ça. Du coup, cette année, on a un peu... galéré, mais ils nous ont dit, ils voulaient soutenir aussi la jeune création. Ils se sont dit, bah oui, enfin, on est fait pour ça aussi, donc on va vous prêter ce lieu. Mais sinon, les financements, on a fait des soirées quand on a commencé Spinoff, on a fait des soirées
soirées
de soutien,
tout,
à Paris, à Angoulême.
Tous les fonds ont été récoltés par la solidarité.
Ouais, c'est ça. On vendait, à un moment, on a vendu des originaux de.
D'exposants
ou de gens qui dans la création qui soutiennent, qui nous ont donné des originaux. Et en gros, on a fait comme une espèce de loto, quoi. Chacun tirait un petit ticket et après, ils choisissaient l'original qu'ils voulaient, quoi. Du coup, on fait des trucs un peu comme ça. Enfin, on faisait des trucs un peu comme ça.
Mais vous pouvez nous donner des noms de lieux, d'événements que vous faites, par exemple, à Paris, pour qu'on vienne vous soutenir.
Cette année,
on n'a pas eu besoin.
Cette année, on n'a pas eu besoin.
Les premières années, ouais,
les premières années pour commencer à avoir une base.
On a fait des soirées un peu dans genre une au Pays Basque, une à Strasbourg, une à Paris, une à Angoulême. Enfin, on faisait un peu des espèces de comme des espèces de tournées. Bon, c'était pas
puis
les mêmes.
Ça tease un peu aussi le festival.
Ouais, ça tease et puis ça. Ça permet de récolter un peu de sous. On a organisé une expo à Paris, c'était il y a deux ans, l'expo d'urgence, on avait une quinzaine d'artistes qui se sont rassemblés pour fabriquer des trucs en une journée. Ça a donné lieu à un événement qui nous a permis de tenir un bar et de cette manière de récolter un peu de sous. Traditionnellement, la mairie...
On a eu une bourse, une bourse, la bourse des tricoles à Angoulême. C'est, en fait, nous, quand on a monté le festival, c'était dans des locaux un peu vétustes, ou un peu, du coup, il y a pas mal de bricolage à faire de nous-mêmes pour rendre le lieu...
Accueillant,
enfin en tout cas qu'il soit pratique, genre par exemple pour le soir un bar ou des choses comme ça. Et du coup, on fait avec les moyens du bord, donc on fabriquait à chaque fois des bars, des choses comme ça, donc c'est en palette. Et du coup, on a un truc hyper. Par exemple, on faisait des repas à midi, on avait choisi d'avoir des bols en pulpe, des trucs comme ça. Et en gros, la bourse des tricoles, c'est des gens à Angoulême qui font ça pour justement des associations ou des gens qui montent des événements, des choses comme ça, qui sont et qui font attention en gros à l'écologie ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, ça, c'est une bourse qui permettait aux gens qui la reçoivent, en gros, d'aller encore plus loin, enfin, de continuer dans un lancement
de penser voilà, de écologiquement récup,
voilà quoi, parce que...
Et tout à l'heure, vous avez parlé, donc on a un peu parlé d'autres festivals des fanzines indépendantes. Si je ne me trompe pas, je vous ai croisé, j'ai croisé Spinoff à Rome au Crack Festival, c'est notre, un de nos festivals préférés. Mm-hmm. Et donc, quels sont vos rapports avec ces autres festivals ? Est-ce que des fanzines, est-ce que vous essayez d'apporter Spinoff partout ailleurs ? C'est lesquels ? Est-ce que vous pouvez citer pour nos auditeurs d'autres festivals des fanzines que vous aimez beaucoup ?
Bah, Spinoff, on a été à Fanzine Festival à Paris. Après, je crois qu'on a arrêté un peu d'avoir des stands au nom Spinoff.
Au nom du Spinoff, ouais.
Dans le sens où, en vrai, on n'est pas un collectif
d'édition.
Ouais, c'est plus un événement, en fait. Ouais. Du coup,
tous les membres du Spinoff, ou presque, sont des gens qui produisent de la BD, enfin, ou de la micro-édition et tout. Mais on n'en fait pas nécessairement en tant que collectif, quoi. Du coup, ça n'a pas forcément de sens d'aller dans d'autres festivals en tant que Spinoff et tout. Mais oui, effectivement, bah, il y a plein de petits festivals similaires au Spinoff à travers l'Europe. Et c'est tous, c'est presque un réseau, quoi. Même si il y a pas de, je sais pas, d'émissaires qui vont là et là, on se connaît. Enfin, on sait que c'est une ligne de programmation qui est à peu près la même. En tant qu'individu, on y est déjà allé aux uns et aux autres. Je sais pas, il faut citer des noms. Le festival Fanzine à Paris qui est plus ou moins le grand frère du Spinoff. Qui est vraiment...
Dans lequel vous n'avez pas vous-même de billes. Enfin, vous n'y participez pas, là.
Bah, on y va tous en tant qu'exposants.
Ah non, pas en...
Ça nous arrive de filer des coups de main, parce qu'en fait, on se connaît, et puis voilà, quoi. Mais c'est une autre association, et tout. Plus ancienne, pour le coup. Je ne sais pas, on pourrait parler de Millionaires Club à Leipzig, qui est un festival aussi comme ça, organisé par des auteurs de BD indépendants, et qui, c'est la même chose, ouais, le Crack à Rome, enfin il y en a un peu partout en Europe, à Oslo, enfin où vous voulez.
D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on a réussi à rendre compte un peu de ce qui va se produire, enfin de ce qui est en train de se produire pour les auditeurs. Au festival Spinoff d'Angoulême. On vous remercie, hein, Simon et Camille, d'être venus nous parler de cette aventure et d'être venus nous en parler ce soir. Et nous vous disons adieu.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
I'm
Alors, notre deuxième morceau de la soirée, toujours de l'artiste Ropoporose, avec la chanson, cette fois-ci, Moira. Et donc, maintenant, nous allons passer à l'actualité BD. Ce soir, nous allons vous parler avec Julia, Pierre-Paul, Camilla et moi-même de deux ouvrages. L'un qui est toujours tout foutre en l'air de Moa Romanova, publié donc en septembre 2009, comme on disait tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec Le Nouveau Président de Yann Rambaud, publié donc aussi cette année aux éditions Delcourt. Julia, je te laisse la parole. Et puis Pierre-Paul, tu peux aussi intervenir sur cette affaire.
Merci Michel Carton. Donc en effet, Le Nouveau Président, c'est une bande dessinée de Yann Rambaud, publiée en 2019 dans la collection Patakès aux éditions Delcourt. L'auteur y adopte un ton décalé, basé sur de l'humour absurde, le tout sur la forme d'un dessin épuré. Le style de dessin est assez classique, les personnages sont esquissés en quelques traits et colorisés dans des tonalités pastel. Malgré cette esthétique simple, on reconnaît les politiques françaises actuelles, mises en scène par l'auteur, dans une suite de situations absurdes et cocasses qui n'est pas sans rappeler Fab Caro. Sans plus attendre, comment tu as trouvé cette BD Fière Folle?
Ah oui, ça a changé, maintenant c'est Fière Folle. Bah, au début, ça commence bien. D'ailleurs, c'est peut-être notre présent qui veut ça, en fait, le moment de l'histoire où l'on constate que notre politique est totalement affligeante. Hein. Donc oui, en rire, quelle bonne idée. Et j'ai pu les rire en lisant Le Nouveau Président. Alors, il taquiderie sur Maurice Papon qui a un enfant, le syndicaliste sous le lit, tu vois, qui se cache, et le grand lobby subpuissant du parmesan. Bon, on peut constater vraiment qu'il y a de bonnes idées. Mais ça suffit pas. Au début, j'ai cru que c'était une histoire, certes décalée, en plein dans le nouvel humour, enfin, on en a déjà parlé, mais malgré tout, une histoire qui est nécessaire de suivre pour comprendre. Enfin, pour comprendre quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, on va chercher. Et les premières pages s'accordaient à faire histoire. Puis on passe à une page, une blague, et une blague, de blague en blague, enfin, c'est là où le bas blesse. Car autant, une histoire, y a une continuité, c'est amené à vivre des moments drôles, chiants, touchants, et j'en passe. Mais une suite de blagues, normalement, c'est un concentré de rigolade. Normalement, c'est le top du top, tu vois, le meilleur qu'on te présente. Et moi, je veux dire, j'ai pas trop aimé ce top, en fait.
Ah bah moi, je pense que le problème, c'est qu'en ce moment, beaucoup de gens sont dans la rue, cette BD passe pas très bien, en fait. Certes, Macron, donc on a compris, c'est le nouveau président, passe pour un imbécile, mais il n'est pas tant critiqué que ça. Je pense par exemple au passage où le président cherche à tuer le chômage littéralement, un autre, on voit le CV du président qui cherche un petit boulot pour renflouer les caisses de l'État, ou à s'opposer à la finance. Alors certes, c'est marrant parce que en effet, c'est absurde, mais c'est pas très clair que c'est ironique, et j'ai l'impression presque qu'on a l'impression qu'il lui prête une bonne volonté qu'il n'a pas en réalité, et qui le rend sympathique. Donc ça, évidemment, ça a tendance à m'énerver. Donc ça, c'est pour la dimension politique. Par contre, en termes d'humour, moi j'ai trouvé que beaucoup de gags faisaient mouche. Après, c'est vrai que c'est une BD qui n'a pas nécessairement de trame narrative forte et que les blagues ne sont pas toujours très subtiles. Hein. Par exemple, le parti du président s'appelle le Prout, mais elle est agréable à lire par petits bouts. Hein. C'est une BD qu'on prend probablement plaisir à lire le dimanche matin en pyjama. Voilà.
Donc, en gros, un avis relativement mitigé sur cette BD, ça vous a pas totalement. Même si le thème vous plaisait.
Ouais, le thème a priori était plaisant et non, mais il y a quelques gars qui sont vraiment hilarants où en fait je me suis esclaffé sincèrement.
C'est la politique qui va passer, le discours fond politique est trop.
Il y a d'autres gars qui sont moins bien, ouais. Et il y a pas. Ça ressemble un peu à des strips en fait. C'est vrai qu'une longue BD comme ça, je pense qu'il vaut mieux la lire par petits bouts.
Et vous nous avez
aux
pas
toilettes, parlé... tu vois, ce genre de truc, tu vois, tu vas lire un peu, tu vois, et c'est cool, vraiment c'est pas mal. Hein.
Mais au niveau dessin, vous en avez pas trop.
Moi j'ai vraiment aimé en fait il dessine pas les yeux des personnages, c'est quelques traits qui sont esquissés et je trouve que ça rend bien. Après le reste est assez classique, ça m'a pas, y a pas d'originalité esthétique, mais en même temps c'est une BD d'humour, donc c'est, c'est ça le propos, c'est que ce soit drôle.
C'est vrai que ça c'est une question qu'on peut se poser, les BD d'humour ont un peu des fois des difficultés à avoir un style qui comme si en fait l'art
c'était moins drôle,
l'esthétique qui peut s'opposer à l'humour. Bizarre.
Ouais, c'est vrai.
Enfin voilà, donc merci pour ce retour. On va donc maintenant se tourner et terminer avec Toujours tout foutre en l'air de Moa Romanova aux éditions Revival. Donc je te laisse la parole, Michel. Oui, alors je viens de lire effectivement cette BD donc d'une Suédoise qui est Moa Romanova et qui est très jeune, elle est née en 92. Elle a donc à peu près 27 ans sûrement. Donc elle a déjà pas mal de succès là-bas, elle est assez connue. Elle va publier aussi en février un nouvel album là, qui s'appelle Goblin Girl, donc je ne connais pas encore du tout le contenu. J'ai essayé un petit peu de regarder, c'est un peu difficile parce que même si elle est connue en Suède, elle est un peu traduite, hein, donc dans environ 7-8 langues. Mais c'est assez difficile d'avoir des interviews, ou bien en français en tout cas. Donc je suis allé regarder, j'ai regardé les vidéos, il existe, elle a a priori une activité un petit peu transversale. Par exemple, elle fait des. Il semble qu'elle fasse des vidéos de certains groupes de musique, notamment il y a un groupe de jeunes filles qui s'appelle Shit Kid, un petit peu. Donc je vous recommande sur YouTube Shit Kid Romance, donc c'est elle qui a filmé. Et qui est un truc, on a l'impression que c'est sorti des années 90 dans la façon de filmer, un petit peu punk, grunge et en même temps électro, c'est assez sympa. Bon, voilà. Alors donc aujourd'hui je voulais parler de Toujours tout foutre en l'air, donc c'est une BD à base autobiographique, hein, vous avez compris que c'est quand même un peu la tendance en ce moment, 183 pages. Donc le personnage central c'est elle-même, donc qui est une jeune artiste torturée depuis peu dans le roman graphique en question, par des crises d'angoisse qui la font pleurer immanquablement. Et donc l'histoire commence avec elle qui fait cette rencontre sur Tinder d'une star de télé qui a 53 ans et avec qui la relation est assez ambiguë parce que ça démarre évidemment sur Tinder avec l'idée d'une histoire peut-être de cul, une perspective amoureuse éventuellement, mais au bout d'un moment ça tombe dans le mécénat éventuel et c'est pas très clair. Et en tout état de cause, elle s'y investit émotionnellement pendant tout le livre. Mais bon, vous avez bien compris, hein, l'idée c'est que les émotions, eh bien, Moa ne les gère pas facilement. Et donc, on assiste aussi à ces séquences chez le psy, qui la convainc d'ailleurs assez peu. Et elle retrouve surtout un réconfort auprès de ses copines, lesquelles ont tout de même un mode de vie qui est quand même pas trop adapté à ses problèmes, savoir rêve party, drogue, etc. Et entre les sorties, il y a beaucoup de moments où Moa, disons, est semi-seule. Elle doit affronter ses démons, alors souvent c'est retranscrit par un style graphique assez psychédélique, soit bah, elle a son portable qui fait office de cordon ombilical avec le reste du monde. Donc voilà. Donc on a quand même pas mal de séquences comme ça, où on la voit tapoter sur ses applications WhatsApp, etc., etc. Alors le style graphique qui est assez chiadé, faut quand même bien le dire, c'est de la ligne claire, plutôt minimaliste hein, sur les formes du visage, etc. Et il y a assez peu de couleurs, des fois on atterrit directement dans du noir et blanc. Les personnages, alors c'est ça qui est assez typique, ont tous des têtes disproportionnellement petites par rapport à leur corps, qui sont très massifs, ce qui interdit de leur trouver forcément de la grâce. Et ça produit un effet assez intéressant parce que les personnages sont majoritairement féminins. Donc vous avez des personnages féminins avec un énorme corps et des petites têtes. Au début, vous posez la question de s'ils sont bien des femmes. Alors ça, c'est vraiment un aspect du livre. C'est-à-dire que sans que ça soit dit clairement, il y a clairement un côté girl power, un côté féministe qui se dégage sans pour autant qu'il y ait de discours féministe. C'est plutôt dans le style, dans le rapport avec les copines, dans le fait que les hommes sont plutôt en périphérie, sont pas centraux du tout dans la BD. Autour des personnages, toujours sur le style graphique, il y a une grande variété de gestion des arrière-plans et des corps. Alors soit c'est par exemple très fourni en détails, soit il n'y en a quasiment pas. À noter un passage assez hallucinant dans un style manga sur quelques pages. Donc on a l'impression de tomber dans une BD de manga. Bon, quand même un petit peu déformé. Alors ce que j'en ai pensé, eh ben j'en sais pas trop, j'ai du mal à avoir un avis, c'est un peu difficile. Ce qui est certain, c'est qu'au début, le sentiment d'angoisse que ressent donc moi pendant toute la BD était bien transmis. Alors ça, j'y ai pensé, est-ce que c'est facile de fabriquer de l'angoisse par de la BD? Forcément, c'est sûrement plus facile que de produire un sentiment d'ennui quand vous voulez avoir des sentiments ennuyeux. Enfin, vous faites un film ennuyeux et vous produisez de l'ennui, vous vous dites à la fin, c'est normal, les personnages sont ennuyeux, sont ennuyés eux-mêmes. Tu fais, oui, bon. Donc, mais l'angoisse, c'est un peu plus difficile déjà. Et de ce point de vue-là, c'est assez bien réussi au départ. Et après, bon, il y a tout le côté, moi, que j'aime bien, qui est le côté un peu punk, post-apocalyptique, pardon. Qui est plutôt pas mal, mais par contre j'ai du mal un petit peu à adhérer au truc. On est la génération internet, donc on a beaucoup de trucs sur WhatsApp. Je pense que c'est bien que ça fasse partie du truc, mais en même temps je vois qu'il y a vraiment on a l'impression que c'est une BD des fois qui s'adresse aux vieux qui ont envie de voir la génération internet, ça y est, elle est complètement intégrée, enfin c'est dans son corps, elle fait ça et, elle, et c'est normal. Et ça me convainc pas plus que ça.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Michel. Parce je trouve que cette on commence avec une conversation WhatsApp, mais effectivement, je trouve ça hyper fluide. Donc, on est un peu dans un sort de flou, des consciences, des moi. Donc, c'est sa vie elle, et ça s'enchaîne. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, les il rentre dans son quotidien et donc il les intègre dans sa bande dessinée. Donc je trouve pas du tout ça forcé, je trouve ça au contraire très, très intéressant.
Je pensais que c'était forcé.
Oui, mais bon, t'as quand même fait une critique. Alors que moi je trouve très intéressant d'être quand même plongé dans son quotidien de cette façon, même avec des détails comme sa conversation WhatsApp qui n'est pas forcément hyper intéressant. Et donc après je trouvais ça hyper beau les contrastes entre la couverture, très années 80, et l'intérieur, avec ses dessins, comme tu disais, froids, et ses couleurs pastels, souvent pastels, et de noir et blanc de temps en temps. Après, j'ai franchement adoré sa façon de rendre les étapes psychologiques des personnages, et comment tout passe par les yeux des personnages. Par exemple, quand il prend une drogue, il a les yeux qui changent tout de suite. Mmh. Il y a les personnages qui peuvent devenir hyper inquiétants grâce à leurs yeux. Et ses corps, ses gros corps, mais c'est immense.
Ça, c'est
et comment ils rendent leur état psychologique aussi. Dès qu'il y a un souci, les corps deviennent de plus en plus gros. Mmh. Et voilà. Donc moi, je vous conseille absolument cette bande dessinée. Et je trouve qu'effectivement, sa façon d'être féministe, sans trop le dire, c'est
beau. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour le retour. Merci à toi, Michel. Merci. Cette émission se termine. Nous avons reçu aujourd'hui Simon Lahure et Camille Bertrand pour le collectif des Hiboux qui nous ont parlé du festival Spin-Off, on vous le conseille, hein, donc c'est en off du festival d'Angoulême. Vous y trouverez évidemment tous les exposants, vous y trouverez des concerts, vous y trouverez aussi la possibilité de vous y restaurer le café de matin, même si c'est pas aussi important que l'année dernière, hein, si j'ai bien compris. Ils nous ont expliqué ça tout à l'heure en off du off. Et puis enfin, nous avons vu la chronique, donc les chroniques de 2BD, le nouveau président avec Julien et Pierre-Paul. Pierre-Paul, pardon, excellent. Donc de Yann Rambaud, publié aux éditions Delcourt. Et puis toujours tout foutre en l'air de Moa Romanova, publié en septembre 2019 par les éditions Revival. Cette émission a été préparée par Camille Lapizzi-Killan, présentée par moi-même Michel Carton, et avec la complicité de Julia Legrand, et réalisée et commentée aussi par Fierfol ou Pierre-Paul. A très bientôt sur Radio Campus, et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Bye bye, bonne soirée.
Au revoir.